Vous écoutez, on lit pour vous.
Freaky Day, à la croisée du punk, du rap et du féminisme. Un texte de Félix B. Desfossé, paru le 27 juin 2024 dans Urbania. Elle a fait la première page de The Gazette, en plus d'être l'objet d'un documentaire de l'ONF. Elle a lancé le premier disque hip-hop commercialisé au Québec. Et elle a même fait la première partie de Big Daddy Kane et Eric B. and Rakim. Pourtant, elle a disparu sans laisser de traces et son histoire a été oblitérée de la mémoire collective québécoise. Qui était Freaky Day? En 1998, lors de sa toute dernière apparition publique, Freaky Day a fait un malheur. Le téléphone s'est immédiatement mis à sonner chez sa manager, Sharon. Elle aurait pu devenir la Missy Elliott du Québec, mais il était déjà trop tard. Dans le cadre de la série documentaire « Les racines du hip-hop au Québec », Freaky Day a accepté de sortir de l'ombre et de donner sa première entrevue en plus de 25 ans. C'est dans une maison de campagne de Saint-Calixte, près de Montréal, que nous l'avons rencontré. Un premier constat saute aux yeux. Le contraste entre le calme pittoresque du village et le style vestimentaire éclaté, à la fois punk et funk de Freaky Day. Tout au long de l'entrevue, celle-ci a le visage dissimulé derrière une cotte de maille, ainsi que des lunettes de soleil. Comme quoi, 25 ans après sa disparition, le personnage artistique n'a toujours pas changé. Freaky Dancer. Freaky Day refuse de révéler son lieu de naissance et sa véritable identité afin de conserver une aura de mystère. Si on sait qu'elle est issue d'une famille d'origine jamaïcaine, le moment précis de son arrivée à Montréal demeure nébuleux. On peut toutefois l'estimer aux environs de la fin des années 70. Par contre, on sait qu'elle intègre la culture hip-hop dès 1978 dans le domaine du street dance. Elle adopte alors le pseudo Freaky Dancer. En 1981, elle est engagée dans la troupe de danse montréalaise Native New Yorkers, menée par une jeune femme afro-montréalaise ambitieuse qui se fait connaître sous le nom de Charon. L'association entre les deux perdure encore à ce jour. Le destin a cependant tôt fait de frapper la jeune Freaky. Malgré son jeune âge, on lui diagnostique une condition incurable et dégénérescente, la maladie de Still, une forme rare d'arthrite juvénile. Son médecin lui annonce qu'elle devra combattre ce nouvel ennemi toute sa vie. La maladie ayant tôt fait de limiter la souplesse de ses mouvements, Freaky Dancer est forcée d'abandonner la danse. Mais, plutôt que de se laisser abattre, ce premier obstacle d'une longue série ne fera que révéler le caractère fonceur de la jeune femme. En 1983, elle se rebaptise Freaky Day et se consacre à la poésie. Si elle choisit le rap comme moteur d'expression artistique, elle ne se considère toutefois pas rappeuse pour autant. Plutôt que de se plier à une seule étiquette, elle désire demeurer inclassable, hétéroclite. Ses influences musicales lui proviennent du funk et du jazz, de Nina Simone à Sun Ra, en passant par Bootsy Collins, mais aussi du rock et du punk de Jimi Hendrix à Bad Brains. Freaky Day is a punk rocker. Freaky Day parvient à se démarquer grâce aux thématiques qu'elle aborde. Alors que la vaste majorité des rappeurs et rappeuses de Montréal donnent dans ce qu'on appelle le « party rap », c'est-à-dire un rap où les textes n'ont aucune réelle substance et qui sert plutôt à mettre de l'ambiance pour faire la fête, Freaky Day, elle, traite de sujets politiques. Racisme, sexisme, féminisme, affirmation sexuelle, identité de genre, homosexualité, abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants, brutalité policière, violence conjugale. Autant de thématiques abordées par Freaky Day dès ses premières prises de parole au micro. En ce sens, la rappeuse est une pionnière de la scène hip-hop montréalaise donnant dans le rap « conscious », une branche qui se développera aux États-Unis dès la deuxième moitié des années 80, notamment avec Public Enemy, des spectacles explosifs. Inclassable, iconoclaste, Freaky Day travaille avec ardeur pour se faire une place dans la scène hip-hop montréalaise. C'est sans doute au Foufoune électrique, alors haut lieu de la culture underground, qu'elle se sentira le plus à sa place. Le bar punk enfumé au plancher éternellement collant et au mur suintant lui fait une place de choix, que ce soit en première partie de concert rock ou lors d'événements multigenres. Et sur scène, elle est explosive. Encore une fois, tout en contraste, Freaky Day, douce et spirituelle dans son quotidien, se métamorphose en un personnage provocateur. Haranguant la foule et flashant sa poitrine, elle est aussi et surtout ultra charismatique et rassembleuse. Grâce aux bouches à oreilles, les passages de Freaky Day au Fouf deviennent des événements à ne pas manquer. Un premier disque. En 1986, Freaky Day fait ses premiers pas au studio Ultra Sound de Montréal, où sa gérante Charon a des contacts. La rappeuse enregistre alors le tout premier disque rap issu de la scène hip-hop montréalaise. Et dès cette première offrande, Freaky Day impose son style. Alors que Beep Rap, en face B, se veut une chanson explicitement sexuelle, le terme « beep » suggérant un son de censure, sur la face A du disque « Time is up » sert en quelque sorte d'introduction au personnage de Freaky Day, abordant de front des questions toujours d'actualité en 2024 entourant l'orientation sexuelle et l'identité de genre. « I wonder what you'd say if I told you I was gay. Would you listen to my record or... would you turn away? I wonder what you'd do if you came in my world, discovering that I'm a boy and not a girl. Tell me, would you still be my friend? Tell me, would you try to understand where I'm coming from? » Malheureusement, côté musique, Freaky Day est déçu par le résultat. Le disque tombe rapidement dans l'oubli et c'est plutôt sur scène que Freaky Day poursuit sa carrière. C'est pendant la deuxième moitié des années 80 que Freaky Day parvient à s'imposer comme un incontournable de la scène hip-hop montréalaise. Lorsque des artistes américains comme Eric B. and Rakim ou Big Daddy Kane viennent au Québec, c'est elle qui est engagée pour partager la scène avec eux. Alors que le rap connaît une nouvelle vague de popularité dans les années 90, propulsée par MC Hammer et Vanilla Ice, notamment, l'attention des médias se tourne finalement vers l'artiste montréalaise en raison de leur intérêt pour ce nouveau son. C'est ainsi que Freaky Day se retrouve en première page de The Gazette et participe à un portrait de la scène rap québécoise dans le magazine L'Actualité. Cette attention médiatique atteindra son point culminant lorsque l'Office national du film lui consacre une production vidéo à connotation féministe en 1991. Même Much Music lui offre de la visibilité dans le cadre du tout premier épisode de l'émission Rap City, spécialisée en culture hip-hop. Le public commence enfin à connaître Freaky Day en tant que reine du rap au Canada. Elle lance aussi un second simple en 1990. Cherchant à se renouveler pendant la première moitié des années 90, elle engage un groupe de 4 musiciens pour l'accompagner sur scène. Un choix révolutionnaire si l'on considère qu'à ce moment, les rappeurs montréalais s'en tenaient généralement à un DJ. Mais Madame D n'était pas comme les autres rappeurs. Un point culminant. Malheureusement, Freaky Day perd de la cadence à mesure que les années 90 avancent. Sa maladie la force à ralentir ses activités, mais sa gérante, Charon, ne perd pas espoir. Cette dernière décide de créer un grand événement afin d'aider non seulement les artistes de son agence à se faire découvrir, mais qui aiderait également toutes les musiques urbaines montréalaises à percer les frontières. Chirin met alors sur pied le Montreal Urban Music Seminar, MUMS, qui se déroule en présence de dizaines d'actants du milieu, dont des artistes et industriels issus du monde de la musique, de la mode et du cinéma. Parmi les participants, on note la présence de LL Cool G, Maestro Fresh West, Snow and Freaky Day. Dissimulant son corps amaigri sous de nombreuses couches de vêtements, elle rassemble toute son énergie et livre la prestation d'une vie. Le public est immédiatement enflammé par la pièce qu'elle interprète et des offres de contrat se bousculent. Mais c'est trop peu, trop tard, puisqu'il s'agissait de la dernière prestation à vie de Freaky Day. Trop affectée par la maladie, celle-ci choisit de quitter la lumière des projecteurs. Couvée par Charine, appuyée par sa sœur jumelle ainsi que par toute une communauté artistique, l'artiste s'efface après avoir marqué le public pour la dernière fois. Plusieurs détails de la carrière active de l'artiste qui s'est échelonnée sur 20 ans, soulignons-le, ont été oubliés avec le temps. Le futur pourrait nous révéler de nouvelles surprises à propos de Freaky Day et, qui sait, peut-être même un retour en musique. Après tout, la reine du rap au Canada a un titre à défendre. C'était Freaky Day à la croisée du punk, du rap et du féminisme. Un texte de Félix B. Desfossé, paru le 27 juin 2024 dans Urbania.
Jeûne intermittent ou trois repas et deux collations? Un texte de Catherine Enfield, paru le 23 juin 2024 dans La Presse. Suzanne Millette, une lectrice de Sainte-Anne-de-Sorel, demande « Pourquoi certains spécialistes recommandent-ils le jeûne intermittent qui limite le nombre de repas à deux par jour, tandis que d'autres spécialistes recommandent trois repas par jour et deux collations entre ces repas? Quelle est l'approche la plus saine? » L'excitation autour du jeûne intermittent vient principalement de deux résultats, selon Benoît Lamarche, professeur à l'École de nutrition de l'Université Laval et directeur scientifique du Centre Nutris. Ces deux résultats ont été répétés dans la littérature scientifique de façon presque systématique, dit-il. D'où leur intérêt. Il y a d'abord les études sur les animaux, qui ont montré que les souris, soumises à un contrôle alimentaire et à du jeûne intermittent, vivent plus longtemps que les autres. Des chercheurs se sont alors intéressés à l'impact du jeûne intermittent chez l'humain, et leurs études ont montré qu'en suivant un protocole de jeûne intermittent, qui peut prendre différentes formes, les gens perdent du poids rapidement. Quand on mange moins de calories, on va perdre du poids, ça c'est clairement démontré dans la littérature. Il n'y a pas de débat là-dessus, résume Benoît Lamarche, qui s'intéresse dans ses recherches aux impacts de l'alimentation sur la santé cardio-métabolique et le risque cardiovasculaire. Le grand débat, il est à propos des défis qu'on rencontre quand on s'embarque dans des diètes comme ça. Le premier défi, énorme selon Benoît Lamarche, c'est le maintien dans le temps d'une diète restrictive comme le jeûne intermittent. Plusieurs études montrent que l'adhésion s'effrite avec le temps, résume-t-il. Socialement, culturellement, il est difficile de maintenir ses habitudes à long terme, que ce soit de ne rien manger entre 20h et midi ou de faire des journées entières de jeûne. Le problème avec les diètes extrêmes qui mène à des pertes de poids rapides, c'est qu'on met l'organisme dans un état de déficit, explique Benoît Lamarche. Or, l'organisme est programmé pour ne pas être en déficit. Quand on réaugmente le nombre de calories, l'organisme, qui était en mode veille, stocke les surplus, vulgarise le chercheur. Le risque de regain de poids est énorme, à moins de vraiment trouver le sweet spot de l'équilibre énergétique, explique Benoît Lamarche. Lorsqu'on fait des changements nutritionnels, ça prend quelques jours seulement pour voir des bénéfices en matière de santé, cholestérol, pression artérielle, etc. Mais l'inverse est aussi vrai. On perd les gains rapidement quand on revient à ses vieilles habitudes. Benoît Lamarche cible un autre défi associé au jeûne intermittent. Celui de combler ses besoins nutritionnels. Si on supprime des aliments, on supprime aussi des vitamines, des minéraux et des nutriments essentiels. Pour ajouter à la confusion, rappelons que dans les années 1980 et 1990, des chercheurs canadiens avaient publié des études qui montraient que, pour contrôler sa glycémie, il était préférable de manger plusieurs petites collations par jour que trois gros repas. C'est complètement contradictoire avec la notion du jeûne intermittent, souligne Benoît Lamarche. L'équilibre. Revenons à la question de notre lectrice. Quelle est l'approche la plus saine? Le succès de la santé à long terme, selon Benoît Lamarche, c'est de manger de façon équilibrée, pour répondre à ses besoins énergétiques sans les dépasser et à ses besoins nutritionnels. Benoît Lamarche résume ainsi le succès de la santé à long terme. Ça peut se faire avec 8 repas par jour, ça peut se faire avec 2 repas par jour, ça peut se faire avec 3 repas et 2 collations, mais l'idée, c'est d'avoir de la diversité, puis de satisfaire ses besoins par rapport à tous les groupes alimentaires importants. Les gros défis nutritionnels sur la planète, c'est la consommation de légumes, de fruits, de protéines végétales, de noix, de grains entiers. Est-ce qu'on mange trop? Ce sont d'abord et avant tout les produits ultra-transformés, la source de 40 à 50% des calories consommées par les Canadiens. Est-ce que c'est facile à faire? Non, convient Benoît Lamarche. Les produits ultra-transformés sont partout dans notre environnement alimentaire et ils sont abordables. Collectivement, on perd aussi la capacité de se faire à manger, dit-il. Lorsqu'on mange souvent à l'extérieur, la qualité de l'alimentation s'en ressent. L'alimentation intuitive est un autre courant qui prend de l'ampleur, mais l'adopter n'est pas chose simple, convient Benoît Lamarche, qui rappelle que bien des gens ne reconnaissent plus trop leurs signaux de faim. Alors comment fait-on? Il s'agit d'abord d'en être conscient, d'être accompagné aussi pour être en mesure de faire des changements durables, indique Benoît Lamarche. Il n'y a pas de recette magique. C'est malheureux, mais c'est ça. C'était « Jeûne intermittent ou 3 repas et 2 collations », un texte de Catherine Enfield, paru le 23 juin 2024 dans La Presse.
Avez-vous lu Le Pape François, une chronique d'Aloïs Gallet, parue le 28 mai 2024 dans le journal La Source, en Colombie-Britannique? Alors que les 80% des scientifiques prédisent un réchauffement climatique d'au moins 2,5 degrés, alors que les marchés restent sourds, aveugles et menteurs face aux désastres qu'ils génèrent, alors que les politiques, exerçant désormais leur mandat sur Twitter, n'inspirent plus grand monde, n'est-il pas temps de chercher l'inspiration ailleurs? Et pourquoi pas regarder de plus près à la plume du pape François? Il est le chef d'une communauté de près 1,5 milliard de congénères. Explorons sa lettre écrite aux fidèles, dont la rigueur littéraire, l'exactitude scientifique et la force éthique valent bien des lectures. L'exhortation apostolique Laudate Deum, publiée le 4 octobre 2023, commençait par ces mots: à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique. Il s'agit pour le Saint-Père d'adresser ses préoccupations concernant la sauvegarde de la maison commune, une très belle expression que l'on retrouvait déjà dans la lettre encyclique Laudato Si de 2015. Si la terre est notre maison commune, on doit souhaiter que chaque homme et chaque créature puisse y trouver sa place, mais aussi que chacun puisse prendre sa part au devoir d'entretien. Laudate Deum ne manque pas de faire le lien entre la crise climatique et la question de la dignité humaine, qualifiant les attaques contre la nature de « péchés structurels » puisqu'ils sont perpétrés par des multirécidivistes qui ont tout et subis par les miséreux qui n'ont rien. Au paragraphe 20, le pape démontre qu'il existe bien des positions intellectuelles malhonnêtes qui nous confinent à l'inaction climatique. Puis il s'attaque frontalement à ce qu'il nomme le paradigme technocratique. Il accuse cette idéologie de s'être arrogée à tort le monopole de la connaissance scientifique. En s'alliant avec le pouvoir économique et financier, le paradigme s'est mué en une forme d'obsession pour la croissance perpétuelle. Les capacités, les possibilités et la puissance humaine doivent-elles vraiment croître éternellement? Cette déviance de l'esprit n'est ni saine ni décente, mais surtout, elle conduit à la ruine de la planète. Hier, charbon et fer, aujourd'hui, pétrole et lithium, demain, silicium et d'autres matières seront toujours arrachés aux entrailles de la Terre. Le pape interroge en profondeur les limites au pouvoir humain. Notre pouvoir s'est accru de manière effrénée en peu de décennies, et nous ne nous rendons pas compte que, dans le même temps, nous sommes devenus extrêmement dangereux. Les connaissances dans les domaines du nucléaire, des biotechnologies, de l'intelligence artificielle ou de l'ADN procurent à ceux qui ont le pouvoir d'en faire usage une emprise terrible sur l'humanité et sur le monde. Seulement, rien ne garantit que des mortels ainsi suréquipés sauront bien s'en servir. L'IA, quand elle ne sert pas à plagier autrui, n'est-elle pas utilisée pour générer toujours plus de cibles militaires à Gaza? Le pape dénonce la décadence éthique du pouvoir. Le marketing, quand il est mis au service d'une puissance industrielle et financière décadente, n'ignore pas que, pour mettre en production un projet dangereux, climaticide mais lucratif, il vaut mieux tromper le public et corrompre les esprits naïfs. Avec leur slogan pathétique, les projets de gaz naturel en Colombie-Britannique en sont un exemple typique. Le monde veut plus d'énergie canadienne. Ah bon? Il est temps de se hâter maintenant. Tourner l'aiguillon éthique vers les questions fondamentales que chaque homme et chaque femme doit aimer se poser. Quel est le sens de mon existence? Quel sera mon héritage pour la Terre? Quelle sera ma contribution à la vie qui m'a précédée et à celle qui doit me survivre? Dans une ultime réflexion, le pape écrit « Si nous considérons que les émissions par habitant aux États-Unis sont environ le double de celles d'un habitant de la Chine et environ 7 fois supérieures à la moyenne des pays les plus pauvres, nous pouvons affirmer qu'un changement généralisé du mode de vie irresponsable du modèle occidental aurait un impact significatif à long terme. » C'est dit. Le mode de vie irresponsable que nous tolérons ici, non content de contredire les principes de l'éthique, détruit en plus le bien commun. Les questions posées par le pape sont universelles. Dans nos vies comme dans nos ouvrages, serons-nous les collaborateurs du paradigme technocratique mortifère ou les justes d'une réconciliation avec la dignité humaine et la nature? La réponse s'écrit en ce moment. Elle sera après nous et avec ce qu'il restera de la maison commune, notre seul véritable héritage. C'était « Avez-vous lu le pape François ?» une chronique d'Aloïs Gallet, parue le 28 mai 2024 dans le journal La Source, en Colombie-Britannique.
Perdu dans les brumes, une chronique de Françoise Engard, parue le 6 juin 2024 dans l'Acadie Nouvelle, au Nouveau-Brunswick. On dit souvent que les Terre-Neuviens sont des gens résilients, habitués à l'adversité que leur réserve régulièrement l'océan Atlantique. C'est sûrement vrai, mais j'ajouterai que ce qui nous forge le caractère, année après année, c'est la météo. Il y a un phénomène météo spécifique à la péninsule d'Avalon qui n'est pas pour les faibles de caractère, les déprimés et les angoissés. La brume. Et je ne veux pas dire ces lambeaux d'humidité qui flottent parfois au petit matin sur vos paysages. Non, non, cette brume-là se dissipe au premier rayon du soleil. Ce dont je parle ici, c'est ce qu'on appelle à Saint-Pierre-et-Miquelon la brume bouchée, celle au milieu de laquelle on ne voit rien, où tous les repères disparaissent, où on se perd si d'aventure on est en pleine nature sans compas. C'est une brume qui enveloppe tout et donne très vite l'impression d'étouffer. Cette semaine, le service météo nous a annoncé le pire du pire, une zone de basse pression stationnaire. Autrement dit, une dépression coincée au-dessus de nos têtes pour la semaine. Je n'exagère pas en vous disant qu'il faut des nerfs d'acier pour résister à ces journées noires et interminables, durant lesquelles, j'en suis convaincue, il fait aussi sombre à Saint-Jean qu'en Islande en plein hiver. Après la grisaille, la neige hivernale et les nuits qui tombent à 17 heures, nous voici de nouveau confrontés à l'obscurité et à l'humidité, coincés sur notre péninsule sans même l'espoir d'en sortir, car bien peu d'avions atterrissent et décollent. Pour ajouter au désespoir qui s'installe au fil des jours, voire des semaines, aussi insidieusement que la brume s'immisce dans les moindres recoins de notre quotidien, on sait qu'ailleurs il fait clair et peut-être même que le soleil brille. Et pas loin, à Gander, par exemple, au centre de l'île, à Halifax, Moncton, Fredericton ou Miscou. Ça n'arrange pas notre disposition d'esprit, je vous l'assure, que de nous savoir enfermés dans le noir quand ailleurs l'été s'installe. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous avec raison. Mon grand-père Victor Reux, capitaine de son état, disait que la fabrique de brume se trouvait au sud de l'île de Saint-Pierre, autant dire sur la côte sud de l'île de Terre-Neuve. C'est d'ailleurs à cette satanée brume qu'il dut le naufrage de son navire, coupé en deux par un cargo. Il y laissa sa vie, comme de nombreuses personnes du bord, passagers et membres d'équipage. Cette semaine, comme tant d'autres, nous attendons l'éclaircie. L'espoir fait vivre. C'était « Perdu dans les brumes », une chronique de Françoise Engard, parue le 6 juin 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.